que je vais vous présenter aujourd'hui, je l'ai intitulé « La fabrique ordinaire d'inégalités multidimensionnelles ». Et ça ne sera ni une présentation théorique de l'intersectionnalité que vous pouvez retrouver là, mais je pourrais y revenir dans cette introduction, ni un développement précis des travaux empiriques que j'ai pu mener. Donc je voudrais quand même vous dire en deux mots ce sur quoi j'ai pu travailler pour qu'éventuellement on puisse aussi y revenir dans la discussion sur des éléments d'enquête plus précis. Donc j'ai d'abord travaillé dans la région parisienne sur les politiques locales et particulièrement la façon dont ces politiques locales fabriquent des catégories ethniques au quotidien, dans leur gestion des chômeurs, dans la gestion de culturelle, dans les dispositifs de démocratie participative. Et donc c'était une interrogation qui à l'époque était relativement novatrice, mais qui aujourd'hui est devenue plus routinière, sur comment les institutions publiques fabriquent des catégories ethniques, et en particulier dans un contexte où elles sont censées ne pas exister, et où les politiques publiques ne sont pas censées définir et cibler des groupes minoritaires. Ça croisait évidemment la question des discriminations ethniques, mais c'était un petit peu plus large, qui est un autre domaine sur lequel j'ai pu travailler, puisque ces politiques publiques de lutte contre les discriminations a pu se développer en France à partir de 1998. Et j'ai travaillé avec des collègues de l'Université de Rouen, notamment Élise Lemercier, mais aussi Myriam Hachimi Alaoui du Havre, sur la façon dont dont ces politiques publiques de lutte contre les discriminations étaient mises en œuvre en Normandie. Par ailleurs, j'ai développé des terrains, à première vue plus exotiques, en Afrique du Sud, autour des migrants qui viennent s'installer dans la ville de Johannesburg et de leur gestion, là encore, par les autorités politiques locales. Donc, des questionnements similaires dans un contexte radicalement autre. Et plus récemment, j'ai travaillé sur l'archipel des Comores, et plus particulièrement sur l'île de Mayotte, qui est devenue département français à part entière en 2011. Et elle se retrouve dans une situation tout à fait particulière, puisque sur ces quatre îles, donc cette île se retrouve frontière avancée de l'Europe dans l'océan Indien, ce qui produit une situation cohabitation ethnique tout à fait particulière. Et on a travaillé sur des mouvements de femmes pro-françaises, pro-rattachement à la France, qui se réclament de l'héritage même des chatouilleuses, c'est-à-dire celles qui, on pourra y revenir, qui prenaient fait et cause pour le rattachement à la France, développant des positions féministes d'avancement de la femme mahoraise au sein de Mayotte. Et ces terrains particuliers soulèvent, vous l'imaginez bien, des questions tout à fait dérangeantes du rapport entre antiracisme et féminisme. Mais ce que j'ai choisi de faire aujourd'hui, puisque d'après les indications que Laure Bourdier m'avait données, j'ai affaire à un public plutôt averti en matière de féminisme et moins familier ou moins directement au quotidien travaillant sur les questions d'antiracisme. Et comme c'est ma spécialité première et je suis venue à la question de l'intersectionnalité, c'est-à-dire des rapports de pouvoir fondés sur la classe, fondés sur les classements, fondés sur l'origine, et des rapports de pouvoir entre les sexes. J'y suis venue à partir de la sociologie du racisme. Et c'est pour ça que je voudrais d'abord commencer mon intervention sur ce qu'apporte cette sociologie du racisme, quels outils pour penser ce phénomène, qu'est-ce que c'est, quelles sont les enquêtes dont on dispose pour y travailler, et dans un second temps, travailler comment les rapports de genre, de classe et ethnique s'en mêlent. Au double sens de s'en mêler. Je voudrais tout particulièrement insister sur une auteure qui s'appelle Philomena Essed, ça s'écrit E-2-S-E-D, qui n'a pas encore été traduite parce que ben, j'ai pas le temps. Mais si voilà, si s'il y a une envie collective de le faire, je pense que même si son ouvrage dont je vais beaucoup vous parler, il y en a eu d'autres après, mais celui-ci est pionnier, qui s'appelle Everyday Racism. Cet ouvrage-là date de 1991. Je voudrais y revenir parce qu'elle a spécifiquement construit un dispositif d'enquête pour comprendre l'intersection du racisme et du sexisme au quotidien. Et donc, à partir des perspectives militantes et de tout cet héritage du black feminism que tu viens d'évoquer, elle a vraiment construit une enquête qui permet de comprendre comment au quotidien se mêlent sexisme et racisme. Donc, pour vous expliquer comment se fabriquent les différences et les hiérarchies racistes de façon assez transversale, je voudrais commencer par un énoncé qui est une idée reçue qu'en général la plupart d'entre nous partageons avant en tout cas de se doter d'outils. En tout cas, une idée répandue sur ce que serait le racisme, qui serait une hostilité subie par des groupes en raison de la couleur foncée de la peau. Hostilité qui serait le fait de gens qui ont des préjugés racistes. Et en fait, chaque élément de cet énoncé pose problème. Et donc, je vais les reprendre un à un, et puis je vais vous dire en quoi ça pose problème. Le premier, et qui est bien familier pour le coup de gens qui travaillent sur le genre, le premier problème de cet énoncé, c'est qu'il existerait des races, et que malheureusement, elles seraient en but au racisme. C'est-à-dire que ce postulat selon lequel il y a des groupes qui existent et qui malheureusement sont victimes du racisme, c'est une croyance communément partagée et au plan philosophique qui se double de l'idée que les hiérarchies, elles viennent se greffer sur des différences préexistantes, constatables, évidentes. Il y aurait des noirs et des blancs et malheureusement... les seconds auraient eu la malencontreuse idée d'esclavagiser, de coloniser et de surexploiter les premiers. Or, au plan historique, c'est l'inverse. Et on peut se référer aux travaux de l'historien Pape Ndiaye, qui a travaillé sur la fabrique des Noirs en France. Au plan historique, c'est le rapport social qui est premier. C'est-à-dire, et en l'occurrence, pour la fabrique des Noirs, c'est bien l'esclavage comme institution qui est premier. La catégorie noire se fabrique à partir de l'institution esclavagiste. Et c'est toute la justification théologique, politique de la traite esclavagiste qui va, encore une fois, fabriquer la couleur. Et qui va fabriquer la couleur comme marque d'une catégorie déjà constituée. Et on rejoint là, peut-être, hein, je enfonce pour vous des portes ouvertes, c'est-à-dire que ce grand apport de Colette Guillaumin, c'est ça, c'est le rapport précède la marque. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un rapport social, soit de domination, soit d'exploitation, soit d'oppression, soit les trois à la fois. Et ensuite, la marque de la différence intervient. Et c'est bien d'abord la hiérarchie, c'est bien d'abord les rapports inégaux qui vont fabriquer de la différence. Et c'est le sens de l'intersectionnalité telle qu'il s'est historiquement construit, c'est-à-dire que c'est l'intersectionnalité entendue comme l'intersectionnalité de rapports de pouvoir, et non pas l'intersectionnalité d'identité sociale, qui n'aurait rien à voir avec ces inégalités et ces hiérarchies. Et donc, ce marqueur de différence radicale, en l'occurrence le marqueur de différence raciale, ça peut être la couleur, mais d'abord, ce marqueur de la couleur est manipulé et manipulable de manière assez spectaculaire, je vous en donnerai quelques exemples, et surtout, il faut bien garder à l'esprit que tout autre élément peut faire l'affaire. En fait, ce qui compte dans cette histoire, c'est d'utiliser un marqueur qui va être le signe d'une différence radicale Mais si il est biologique, c'est encore plus pratique. Mais si vous regardez en particulier les discours de différenciation radicale qui peuvent exister en Afrique du Sud entre les Noirs sud-africains et ceux qui sont définis comme Noirs venant du reste du continent, vous avez des discours de différenciation raciale extrêmement forts, extrêmement virulents et qui s'appuient en partie sur la couleur de la peau, mais qui s'appuie surtout sur les langues. Hein. Et encore une fois, n'importe quel marqueur de différence peut faire l'affaire. Ce qui est important là-dedans, ce qui est au cœur de la différence raciale, c'est l'établissement d'une barrière infranchissable. Alors, j'insiste un peu lourdement là-dessus parce que si on considère que les gens sont victimes du racisme parce qu'ils sont noirs ou parce qu'ils sont arabes, on est dans une explication tautologique, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on est dans le piège d'une explication raciste du racisme. C'est ce « comment est-ce qu'on devient noir et comment est-ce qu'on devient arabe » qui est important. J'aime beaucoup cet exemple que je prends assez régulièrement, mais qui je crois, mérite d'être diffusé. C'est celui d'un chercheur porto-américain qui s'appelle portoricain, pardon, qui s'appelle Ramon Grossfogel. Et donc c'est un chercheur états-unien. Il est natif de l'île de Porto Rico, qui est une des dernières colonies américaines. Et à Porto Rico, il est blanc. Avec tous les privilèges que ça signifie au quotidien. C'est-à-dire qu'il incarne l'élite, la norme, d'autant qu'il est universitaire, il a accès aux services bancaires, aux quartiers résidentiels, à l'estime et la considération, parce qu'il y a aussi des dimensions subjectives très fortes dans cette histoire. Or, la moitié de l'île de Porto Rico a émigré aux États-Unis dans les années 50 pour occuper des emplois de basse qualification. Puis, c'est ceux-là même qui se sont retrouvés aussi au chômage. Et leur descendance, en particulier masculine, connaît une marginalisation aiguë et un chômage massif. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler cet ouvrage qui s'appelle « Enquête de respect ». Fait par Philippe Bourgeois, qui est extraordinaire, qui justement pose un certain nombre de questions qui fâchent concernant la recherche des groupes, sur les groupes les plus marginalisés et qui sont dans le trafic de drogue en particulier. Lorsque ce chercheur vient aux États-Unis, il a exactement le même physique. Il n'est pas très grand, il a les cheveux bruns, il a la peau olive, et il bascule dans une toute autre catégorie raciale qui est celle de la catégorie de portoricain, qui est même, à certains égards, en dessous de classé en dessous des Noirs, parce que c'est vraiment l'indigène, au regard des classements, des hiérarchies socio-raciales états-uniennes, c'est l'indigène. Et il explique très bien comment, tout d'un coup, dans le monde universitaire en particulier, il se voit en permanence exposé à la menace du discrédit, au mépris, à la méfiance, au soupçon. Et il vit avec la crainte de se voir disqualifié, il subit des discriminations, il le vit avec d'autant plus d'acuité qu'il peut faire cette expérience des deux univers, être blanc quelque part et être tout en bas de la hiérarchie raciale de l'autre. Et qu'est-ce qui se passe quand il vient en France, ce qu'il fait assez régulièrement ? Et bien là, il tombe soit dans la catégorie algérien, et en général, ça se passe très mal. Et quand il rectifie, ce qu'il doit être amené à faire le plus souvent, ça se passe tout de suite beaucoup mieux dans l'interaction quotidienne. C'est-à-dire, le même physique change, non pas phénoménologiquement, il change de sens. Les signes de la race que portent ses traits n'ont pas le même sens s'il dit « je suis d'origine portoricaine ». C'est jusqu'à il y a peu, c'était encore classé comme venant d'Amérique latine. C'est en train un peu de changer, mais en tout cas, ça allait beaucoup mieux. Et quand il entre dans la catégorie générique de latino-américain. Donc, c'est important de retenir ce caractère arbitraire. C'est vraiment parce que les traits physiques sont le signe d'une histoire sédimentée entre les groupes sociaux, et parfois si bien sédimentée que oui, le raccourci subir le racisme parce qu'on est noir fonctionne parfaitement, parce que c'est sédimenté depuis si longtemps. Et en même temps, il faut garder à l'esprit que cette logique varie dans le temps, varie dans l'espace, varie selon les contextes, et peut très bien se passer complètement de traits physiques. Et puis si, on n'a pas qu'à cela ne tienne, on les fabrique. Comment reconnaître le juif ? L'opuscule fabriqué, enfin, écrit par Georges Montandon en 1940, c'était vraiment de cette entreprise-là, de on ne peut pas tout à fait... il faut fabriquer des traits pour reconnaître cet ennemi désigné. Et puis si ça ne marche pas très bien, qu'à cela ne tienne, bon, mais une étoile. Après, vous avez des travaux comme ceux de Jean-Luc Bognol qui sont très intéressants parce qu'ils prennent en compte le fait que cette marque biologique de la couleur est un marqueur particulier malgré tout de différence, parce qu'il se transmet et parce qu'il est visible. C'est un ouvrage qui est extraordinaire et à l'époque où on ne parlait pas encore officiellement d'intersectionnalité, il a fait un travail intersectionnel. Ça s'appelle « La couleur comme maléfice », une généalogie créole du blanc et du noir. Il est anthropologue, en fait, j'ai oublié de le préciser. Et il a travaillé dans les Antilles sur les stratégies matrimoniales. Il a montré que celles-ci étaient orientées par une mobilité de classe ascendante qui allait de pair avec un blanchiment de la descendance et la recherche d'un conjoint plus clair. De sorte qu'on a affaire à une terrible prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que plus vous montez dans l'échelle sociale et plus vous pouvez prétendre à faire un mariage avec quelqu'un plus clair et plus vos enfants sont clairs et ainsi de suite. Et la hiérarchie de classe est littéralement co-fabriquée, co-extensive de la hiérarchie de race. Le tout, évidemment, conçu autour des femmes comme non plus reproductrices de la race, comme l'extrême droite les assigne le plus souvent. Là, les femmes ne sont pas reproductrices de la race, les femmes sont des opératrices du changement racial. Et de ce fait, vous imaginez bien que pour une femme ou pour un homme, être plus ou moins blanc n'a pas autant d'importance, puisqu'un homme, lui... peut construire par son ascension sociale le fait de choisir une femme plus claire. Par contre, pour une femme, le caractère plus ou moins foncé de sa peau va être tout à fait déterminant, puisqu'il va déterminer sa valeur sur le marché matrimonial. D'accord, la couleur de peau comme marqueur de différence ou tout autre marqueur. Mais de quelle différence ? Et là, on rejoint encore les apports, je crois, de Colette Guillaumin. C'est une chercheure féministe qui a produit un ouvrage de référence qui s'appelle « Idéologie raciste » qui est paru en 1971 et qui a été une pionnière dans la réflexion sur le racisme en France, qui a été une pionnière dans la réflexion sur le sexisme en France et dans l'analogie entre les deux. Et elle a irrigué toute la recherche française sur ces questions, et elle a aussi irrigué une partie de la recherche états-unienne sur ces questions. On en discutait tout à l'heure, il y a beaucoup d'allers-retours un peu étranges et un peu difficiles à suivre entre la France et les États-Unis, faits d'emprunts réciproques, à un moment donné, Foucault, Deleuze traversent l'Atlantique, ils atterrissent dans des départements de littérature, et puis on les retrouve ici sous la forme de l'intérêt qui s'est développé autour des post-colonial studies. Et donc, voilà, il y a des décalages de traduction. Mais bon, tout le monde est quand même à peu près d'accord pour dire que Colette Guillaumin est assez incontournable. Et elle a écrit des choses parfois dans des publications obscures. Il y a eu à un moment donné une initiative dans le champ des recherches sur les relations interethniques et le racisme qui s'est appelée le vocabulaire historique et critique des relations interethniques. Et ils ont cherché à faire comme une sorte de lexique, de dictionnaire sur différentes entrées ordinaires. Alors ça va de breton, bécassine, à race, brachiocéphale ou acculturation. Donc il y a des choix comme ça d'entrées lexicales et qui sont tout à fait passionnants. Et il y a des articles dedans de Colette Guillaumin que je trouve sur l'entrée race, sur l'entrée racisme, sur sa critique aussi de ce qu'on appelle le néo-racisme. qui sont tout à fait passionnants. Alors, ce vocabulaire historique et critique, je ne sais pas où est-ce qu'on les trouve aujourd'hui, si on les trouve en ligne, il faudrait que je me renseigne si ils sont disponibles dans quelle bibliothèque ou si c'est des choses qui sont vraiment trop perdues sur les étagères de l'URMIS notamment, qui est le laboratoire au fait où j'ai fait ma thèse et où je continue d'être associée aujourd'hui. Elle insiste sur qu'est-ce que c'est que l'idée de race, hein. Et c'est pas seulement une barrière infranchissable. C'est pas seulement une différence. C'est l'idée selon laquelle l'hérédité détermine des comportements culturels et moraux. C'est-à-dire que, en fait, on n'est pas défini en fonction de traits biologiques. On est défini en fonction de traits biologiques qui, en quelque sorte, montreraient le fait que, de manière définitive, vous avez des traits psychologiques, moraux et culturels hérités, que quoi que vous fassiez, vous ne pourrez jamais vous en défaire. Le meilleur exemple, si vous avez vu ce film de Django Unchained, qui met en scène, même si vous ne l'avez pas vu, un esclavagiste dans le sud des États-Unis, un propriétaire terrien, et à un moment donné, il exhibe le crâne d'un de ses serviteurs défunt qui était noir. Et il exhibe ce crâne en disant « Regardez, ici, il y a la marque de la soumission. » Et c'est cette idée, en fait, cette idée du racisme, c'est le fait que des traits biologiques vont de pair avec un certain nombre de caractéristiques morales et psychologiques. Et c'est là qu'on retrouve le parallèle avec les femmes, hein, des traits biologiques qui vont surdéterminer des caractéristiques morales, des caractéristiques psychologiques. Ah, qu'est-ce que c'est bien qu'il y ait des femmes en politique, ça introduit un peu de douceur, ça introduit, enfin, vous connaissez tout aussi bien que moi toutes ces conneries. Mais c'est important d'en identifier en fait le nœud, et le nœud il est là. Une autre idée reçue quand même, pour terminer sur deux idées reçues, c'est l'idée que l'hostilité va décroître quand les gens s'assimilent, qui est absolument fausse, au contraire. Il y a des travaux d'historiens qui ont montré que pendant la Première Guerre mondiale, on a fait, vous savez, beaucoup appel à la main-d'œuvre indigène, parfois sous des formes un peu forcées, et précisément ceux qui commençaient à accrocher aux idéaux d'égalité et d'acculturation ont pu, et en particulier des Sénégalais, ils ont pu être envoyés au Sénégal pour, je le cite, des cures de resénégalisation. Et vous voyez, ça c'est caractéristique de l'ambivalence de l'assimilationnisme français, hein, qui est d'abord un assimilationnisme colonial, mais qui perdure aujourd'hui sous différentes formes, qui est dans cette double injonction contradictoire, qui est « assimilez-vous », et en même temps, vous ne le serez jamais, et si vous vous assimilez au point de prétendre à l'égalité de manière un peu intempestive, on vous rappelle à la différence et on vous renvoie à votre culture. Et donc c'est ce paradoxe que moi j'avais bien exploré à Montreuil, qui était fascinant, c'est-à-dire à la fois une interdiction complète de parler sa langue, une mépris des pratiques culturelles, une folklorisation des pratiques vestimentaires et même violence, hein, contre toute apparence de différence culturelle, enfin toute velléité, et en même temps, je prends notamment l'exemple de cette femme descendante de Malienne à Montreuil qui se présentait en politique aux élections régionales sur les listes du Parti communiste français, et qui était en permanence renvoyée à ses origines, alors tantôt selon les contextes maliennes, tantôt africaines, et dont on disait en même temps qu'elle était née à un hôpital, dans un hôpital montreuillois, pour signifier son autochtonie et sa légitimité à être là, et sans cesse aussi renvoyée à expliquez-nous la culture des Maliens. Et donc cette espèce de paradoxe qui est que dès lors que vous assimilez complètement, vous êtes renvoyé à votre culture, mais dès lors que vous prétendez faire valoir la reconnaissance ou l'existence même, le fait de vos pratiques culturelles ordinaires, elles n'ont pas le droit de citer. Et je pense qu'une grande partie quand même de la tension, de la violence, en plus des questions de hiérarchie sociale avec lesquelles elles sont entremêlées, vient de cette double injonction contradictoire. Et donc, les avatars contemporains, parce qu'aujourd'hui, quand même, ça commence à se savoir que les traits biologiques, c'est des billevesées et que le racialisme, quand même, le vieux racialisme du XVIIIe siècle a un peu vécu. Mais il est très souvent remplacé par le terme de culture ou de structure familiale. On le retrouve, y compris jusque dans la recherche, hein, avec les travaux de Lagrange, qui prétendait expliquer les émeutes de 2005 par les dysfonctionnements de la culture familiale africaine. Je caricature ces travaux à peine. Et c'est ce qu'on a appelé le néo-racisme, justement. C'est pour ça que c'est un bien vieux néo-racisme, c'est l'expression de Colette Guillaumin, c'est que ça a toujours été ça, le racisme. Ça a toujours été cet amalgame entre un peu de culture, un peu de très psychologique, un peu de très moraux, avec l'idée que ça produit des éléments stables, immémoriaux et transmissibles qui caractériseraient les groupes minoritaires. Elle a apporté le fait que les victimes du racisme et du sexisme sous-estiment systématiquement le racisme et le sexisme qu'elles subissent. Elles le sous-estiment pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a une partie qui est structurelle et qui est donc invisible, parce qu'elle n'est pas liée à l'intention des personnes avec lesquelles vous êtes en interaction. C'est aussi au passage les limites de l'interactionnisme et les limites du fait de considérer que le sexisme et le racisme seraient uniquement intentionnels, directs et interactionnels avec des vilains méchants qui auraient des préjugés. C'est toute la partie que j'ai pas eu le temps de développer, mais vous avez bien compris, puis je pense que ça fait écho aux recherches féministes qui montrent la structuration inégalitaire en termes de genre, sans forcément qu'on ait affaire à des vilains machos opérateurs de cet ordre inégalitaire. Elle a montré cette sous-estimation, et je conclurai là-dessus, surtout en des temps où on n'arrête pas de nous parler de victimisation, c'est l'inverse qui se passe. Parce que elle s'est basée sur le récit du quotidien par des féministes noires américaines et des femmes originaires du Suriname, immigrées, qui avaient moins ce parcours militant. Et qui racontent les unes comme les autres leur quotidien et qu'est-ce qui se passe quand il y a des complications qui surviennent. Une complication, c'est quelqu'un qui vous parle mal, quelqu'un qui vous ignore ou qui fait semblant que vous n'existez pas, vous n'êtes pas traité, vous avez l'impression de ne pas être traité de la même manière et vous ne savez pas à quoi l'attribuer. Est-ce que c'est du racisme? Est-ce que c'est du sexisme? Voilà. Et en fait, elle montre qu'il y a un mécanisme psychosocial qui se déclenche à ce moment-là, qui est assez courant, et qui est tout simplement fait pour se protéger de la parano. La parano, c'est vous pensez que le monde entier est ligué contre vous en permanence. Hein. Et quel est ce mécanisme? Eh bien, il consiste à explorer toutes les autres explications que celles du racisme et du sexisme qui pourraient venir expliquer pourquoi on vous a refusé un service, pourquoi on vous a parlé d'un ton rogue, pourquoi vous n'avez pas pu avoir accès à. Et en général, les personnes s'arrêtent à la première explication rationnelle, plausible, acceptable qu'elles trouvent. Alors, mais au fait, comment on fait dans la recherche? Comment on introduit ces outils dans la recherche? De l'intersectionnalité. En fait, quand on est spécialiste d'un rapport social, ce qui est très souvent le cas, en fait, c'est-à-dire que, historiquement, la recherche en France s'est structurée avec des gens qui étaient spécialistes de la classe sociale, de la structuration en classe sociale, étaient spécialistes des rapports de genre, étaient spécialistes, comme moi, des rapports ethniques. Rapport ethnique, juste une précision aussi conceptuelle qui n'a l'air de rien mais qui est importante. C'est tous les rapports sociaux qui mettent en jeu un classement fondé sur l'origine. j'entends bien, c'est un classement social fondé sur l'origine. Après, ça ne dit rien de votre culture, ça ne dit rien de votre langue, ça ne dit rien de vos trajectoires migratoires, ça ne dit rien de vos parents. C'est juste, vous êtes, à un moment donné, classé, ou vous vous classez vous-même, ou souvent les deux, comme étant d'une origine donnée. Et donc, tous les rapports sociaux qui mettent en jeu ce classement fondé sur l'origine sont les rapports ethniques. Et contrairement à ce qu'a longtemps affirmé la perspective marxiste, ces rapports-là, ainsi que les rapports de genre, ne sont pas subordonnés aux rapports de classe. Au sens des les rapports de classe entendus comme la place que vous occupez dans le processus de production. La difficulté, si vous voulez, c'est que dès que vous travaillez un peu sur les rapports sociaux de classe, par exemple, ça suppose beaucoup de finesse, beaucoup de complexité. Par exemple, je pense aux tous les gens qui ont travaillé sur les classes bourgeoises et leur inscription dans l'espace, hein, pour prendre des travaux qui sont assez connus, des pinsons et pinsons. Vous voyez toute la complexité, toute la finesse de comprendre comment ces classes se sont constituées, leur diversité interne, leurs barrières. Et si vous introduisez le genre, Puis, si vous introduisez la question des relations interethniques, ça a tendance un peu à brouiller les choses. Et vraiment, c'est la difficulté quand on est dans la recherche aussi. Pour prendre l'exemple du moment où, pour moi, vraiment j'ai introduit l'intersectionnalité dans une recherche empirique et où la question s'est posée de manière assez aiguë, c'est la recherche donc, qu'on a menée avec deux collègues, Myriam Hachimi Alaoui et Élise Lemercier à Mayotte. J'avais eu cette réflexion sur l'intersectionnalité par le biais d'une approche théorique où j'avais apporté, moi, mes outils sur la sociologie des relations interethniques avec des féministes qui, elles, travaillaient plutôt sur les rapports de genre et rapports de classe. On ne pouvait pas se passer de l'outil intersectionnel, sinon on rendait compte de la réalité qui était devant nous de manière complètement biaisée. C'est-à-dire que on a travaillé ensemble, c'est un gros programme de recherche et donc il y a différents terrains et ouverts, mais là, pour dire rapidement, on a travaillé sur un mouvement qui s'est créé contre le recrutement d'un franco-comorien à la direction d'une caisse de la sécurité sociale. Donc, des femmes. Le mouvement des femmes leaders, programme comme tel, c'est un mouvement transpartisan, c'est-à-dire que c'est des femmes qui appartiennent à différents partis politiques, et elles se sont mobilisées pour dénoncer le recrutement de ce franco-comorien dans le cadre de la sécurité sociale, arguant du fait que si, comme il était franco-comorien et non mahorais, il aurait fallu privilégier la préférence locale, la préférence envers les mahorais, et que, en plus, cette personne allait privilégier l'embauche d'autres Comoriens. Si vous regardez ces femmes du point de vue des lunettes des rapports de genre, elles ont un parcours très particulier, elles font partie des premières dans leur génération à avoir une scolarisation un peu longue, elles font plutôt partie de l'élite, elles ont une force de transformation des rapports sociaux de genre tout à fait impressionnante. Elles font un travail politique à l'intérieur de leur organisation, mais aussi sur l'île, parce qu'elles se déplacent, elles vont de village en village. Si on utilise ce avec quoi je ne suis absolument pas à l'aise par ailleurs, donc je suis contente d'être ici, parce que je vais pouvoir échanger avec vous là-dessus, c'est la terminologie de l'émancipation, on peut dire qu'elles se situent dans une démarche, y compris jusque dans leur vie personnelle, d'émancipation. Et si on regarde les choses du côté des relations interethniques, et du racisme, elle développe donc un discours pro-français, anti-comorien, extrêmement virulent. Ici, le discours de la différence ethnique et sociopolitique, quasiment exclusivement. C'est-à-dire que ces femmes mahoraises disent que les autres comoriens sont comme elles. Ils n'ont pas de différence religieuse, tous musulmans, ils n'ont pas de différence culturelle notoire ni alimentaire, il n'y a pas de fabrication d'une frontière ethnique qui passerait très classiquement, comme on a pu le montrer dans tous les travaux ailleurs, par la construction d'une différence culturelle. Et pourtant, l'établissement d'une barrière radicale est là. tellement radical que ça suppose des mobilisations dans la rue avec des banderoles anti-comoriennes et qui sont de l'ordre de la construction d'une barrière et d'une différence radicale. Puisqu'après, il y a toute la question de qui est mahorais de qui ne l'est pas, qui est comorien de qui ne l'est pas, et ça évidemment, ça bute sur la réalité du mélange et de l'indistinction et du caractère problématique de la construction de la citoyenneté, de l'enregistrement de l'état civil à Mayotte. Et là, on établit une frontière. Et donc, vous avez, si vous chaussez les lunettes exclusivement, et j'ai oublié une chose et non des moindres, c'est que tout ceci, évidemment, se fait dans un rapport très fort à l'appartenance incertaine à la nation française. Il ne s'agit pas de décrire des Mahorais d'un côté contre des Comoriens de l'autre, c'est bien la question d'un rapport tripartite entre l'ancienne puissance coloniale qui est aujourd'hui encore une métropole, puisque ce sont tous ces territoires qui ont fait le choix, après les décolonisations, qui ont fait le choix officiellement et politique de rester dans le giron français, et qui ont un statut aujourd'hui tout à fait particulier et incertain sur dans quelle situation sont-ils, ça fait partie de la question. Donc si on regarde ces groupes-là seulement de ce point de vue-là, on manque complètement cette question de la transformation des rapports de genre. Et si on les regarde exclusivement du côté des rapports de genre, on manque complètement le durcissement des frontières ethniques qui est lié à cette situation tout à fait spécifique de Mayotte dans l'océan Indien, forteresse Europe. Et donc, pour ce cas-là, c'est contraint et forcé, et par le biais aussi d'un travail collectif que nous arrivons à le faire. Mais ça, il y a quelque chose de tout à fait difficile dans la recherche en œuvre. On perd un peu de l'acuité quand on essaye d'avoir une perspective intersectionnelle. On devient moins fin, on devient moins précis, on se perd un peu parce qu'on essaye de tout regarder, là où on peut être beaucoup plus percutant si on est très attentif à un seul de ces rapports sociaux-là. Et en même temps, on ne peut, une fois qu'on a chaussé ces lunettes intersectionnelles, on se rend compte qu'on ne peut plus les enlever parce que sinon, on produit un biais dans la réalité qui est insupportable. Vous vous rendez compte, imaginez le double compte-rendu de recherche complètement schizophrène qui pourrait être fait j'ai forcé le trait évidemment, de ce mouvement qui s'est mobilisé contre les Comoriens. On pourrait faire un compte-rendu de recherche autour de l'émancipation des femmes à Mayotte, à travers le politique, etc. Ou un compte-rendu autour d'une mobilisation. Et les deux sont vrais. Et alors, je vous livre les recherches à l'état où elles sont, parce que évidemment ça va évoluer. Il y a un moment donné où peut-être même leur croisement va produire encore davantage d'éclairage. Ça reste un exercice difficile à tel point que j'ai certains collègues qui plaident pour un retour à une perspective non pas moniste au plan théorique, mais au plan empirique dans la démarche de recherche, continuer à être davantage attentif à tel ou tel rapport social. Ce pourquoi plaide Sylma Bilge dans L'homme et la société là, qui circule, c'est un peu de souplesse empirique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pose que ces rapports sociaux sont à la fois indissociables et irréductibles, et que aucun ne prime sur l'autre par définition, c'est d'être quand même attentif au contexte. En l'occurrence, à Mayotte, étant donné sa situation historique très particulière, de frontières avancées, de partitions politiques d'un archipel qui compte 4 îles, et il y en a une seule qui est restée française, et avec la Guyane, le territoire qui produit, je ne sais plus exactement le chiffre en tête, je crois que c'est 80% des expulsions pour l'ensemble du territoire français, pour un petit caillou qui compte de 200 000 habitants. Donc la question des relations interethniques à Mayotte aujourd'hui surdétermine le reste. Elle est omniprésente partout. La question des migrants, elle est, encore une fois, extrêmement présente. Ça ne veut pas dire que ce serait... de tout temps et en tout lieu, il faut plus s'intéresser à ce rapport-là, mais il y a des situations dans lesquelles où, en fait, selon la recherche que vous faites, le fait de mettre l'accent sur tel ou tel rapport social se justifie par le contexte. Et Sylma Bigleux est très juste, je trouve, quand elle dit qu'il ne faut pas réifier cette idée qu'on aurait maintenant affaire à un bloc monolithique et qu'on n'aurait pas le droit, finalement, de mettre l'accent, encore une fois, sur tel ou tel aspect. Je ne sais pas si ça a répondu à tes attentes, mais en tout cas, on peut continuer à discuter.
Est-ce que peut-être on fait une petite pause avant ? Une idée de 5-10 minutes et puis on se retrouve pour des échanges.